Voilà. Donc, je voulais vous parler ce matin d'un épisode qui se passe chez Achish à Tziklag. Voilà, je l'ai dit, comme ça on est tranquille. Juste un demi-verset dans la vie de David, qui me paraît, en tout cas, qui pour moi soulève beaucoup de points. Ça se trouve dans 1 Samuel 30, au verset 6. Je ne sais pas si vous l'avez surligné dans votre Bible, ce demi-verset. Il passe peut-être inaperçu. On lit ceci. David, mais, et les mais sont intéressants hein, dans la Bible. Hein, s'il n'y avait pas quelques mais dans le Nouveau Testament, il n'y aurait aucun espoir. En tout cas, on ne serait pas là ce matin. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. En fait, tout ce qui fait la force de ce verset, c'est le contexte. Et donc, on va essayer déjà de mettre ce verset dans ce contexte. C'est une période très sombre de la vie de David qui me pose aussi beaucoup de questions. Au chapitre d'avant, au début du chapitre 27, on a notre David, pas encore roi, qui se met à réfléchir. Et malheureusement, sa réflexion le mène à une décision qui n'est pas terrible. On lit ça donc dans 1 Samuel 27. Vous avez tous trouvé 1 Samuel, hein, c'est avant 2 Samuel. 1 Samuel 27, il y a marqué « David réfléchit et se dit « Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir pour de bon et de me réfugier au pays des Philistins pour qu'ils renoncent à me traquer dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à son emprise. » Incroyable que David, à ce moment de sa vie, voit comme unique solution pour échapper à Saül, d'aller se réfugier chez l'ennemi. Je ne sais pas s'il a réfléchi longtemps pour en venir à ce moment, à cette conclusion. Mais je voudrais quand même qu'on s'interroge sur cette capacité que nous pouvons avoir à élaborer des solutions qui sont à des années-lumière du plan de Dieu, alors que, comme on va le voir dans la vie de David, il y avait quand même eu dans sa vie des éléments qui pouvaient l'amener à des conclusions différentes. Juste en passant, il est clair que dans ce passage, il n'y a aucune mention de l'Éternel. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? Donc je vais commencer mon marathon. C'est clair que vous connaissez l'histoire de David, j'espère. Je vais faire allusion à beaucoup d'éléments. La première chose qu'on sait, c'est la manière dont Dieu a choisi David. David n'a rien demandé, vous savez, quand Samuel vient le voir, il dit « Moi, tout là, non, pas du tout. » Donc c'est pas le gars qui a la grosse tête, qui cherche une promotion. Par contre, Dieu le choisit selon des critères qui sont vraiment, pour des raisons qui sont vraiment très particulières. Il vient de rejeter Saül et l'Éternel choisit David, alors c'est même pas le français courant qui le dit, mais c'est moi, parce qu'il est mieux que Saül. Et donc, parce que Saül n'a pas à faillir à sa mission, l'Éternel choisit David, et vous connaissez la phrase, un homme selon le cœur de Dieu. Alors quand déjà tu pars avec ça comme mission, la résolution de ton choix, tu te dis, bon, il n'y a pas d'erreur sur le casting. Ensuite, nous, en lisant l'histoire de David, on se rend compte que David a appris des choses. Il n'arrive pas dans 1 Samuel 27 comme ça, mais 10 chapitres auparavant, eh bien, David fait allusion à la délivrance de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et peut-être des choses qui sont insignifiante aux yeux d'autres, mais en tout cas, lorsque David se retrouve devant Goliath, il ne raisonne pas en militaire comme l'armée de Saül, qui est morte de trouille à la vue de ce géant, mais il raisonne avec quelqu'un qui a déjà expérimenté dans des situations bien précises la délivrance de Dieu. Et donc c'est ce qui lui permet de dire à Goliath, toi mon gars, tu fais l'erreur de ta vie, parce que tu insultes l'Éternel des armées, et il y a un truc que tu ne sais pas, c'est que lui ne perd jamais. Et ça, vous voyez, c'est un discours qui détonne complètement avec l'armée de Saül, qui est morte de trouille parce qu'il résonne en militaire. Alors David nous a appris à cela. Ensuite, on voit que David, eh bien, loin pour devenir roi, démontre aussi un caractère, des qualités qui sont vraiment extraordinaires, lorsque Saül à plusieurs reprises attente à sa vie. Et David, alors qu'il a l'occasion et qu'il est même encouragé par ses compagnons à régler une fois pour toutes le sort de Saül, refuse de mettre la main sur l'oint de l'Éternel. David est en train de vivre des choses qui sont vraiment injustes, injustifiées. Et il sait qu'il est oint pour devenir roi. Et pourtant, il s'en remet à la justice de Dieu. 1 Samuel 24, 13, « L'Éternel sera juge entre toi et moi. L'Éternel me vengera de toi. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. C'est à l'Éternel seul de le frapper. » Et donc on voit à plusieurs reprises cette attitude de David qui consulte l'Éternel et qui met sa confiance en l'Éternel. Alors que Saül fait pas des choses très clean. Et donc jusque-là, on peut se dire, ben voilà, bien. Sur son cahier de notes, ça va. Il a passé toutes les étapes et on s'attend effectivement à cela de la part de quelqu'un qui est appelé un homme choisi, un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, nous allons arriver à ce 1 Samuel 27. Alors, la liste des péripéties par lesquelles sont passés David est très longue. Dans ses rapports avec Saül, la liste, elle est immense. Hein. On voit Saül jaloux, on voit Saül qui jette sa lance à deux reprises pour essayer de transpercer David contre la paroi. Il lui donne sa fille comme épouse avec un marché pas possible pour essayer de le faire tomber aux mains des Philistins. Ça c'est clairement dit, il complote un meurtre, il siège sa maison, c'est grâce à Michal, vous connaissez le truc là, une forme, même un polochon dans le lit pour faire croire qu'il est encore au lit, enfin, il y a toutes ces choses-là. Chez Abimelech, il va mentir, il va faire le fou. David est vraiment confronté constamment à la poursuite de Saül. Et c'est l'occasion de psaumes. Alors c'est bien de mettre les psaumes dans leur contexte et de lire en parallèle l'histoire de 1 Samuel, 2 Samuel et puis les psaumes. Psaumes 59, 56, 34, 57, 142 et ainsi de suite. Mais tous ces psaumes où David aussi crie à Dieu sa lassitude, son épuisement, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Tire mon âme de sa prison. C'est pas juste de la littérature, hein, c'est pas de la poésie dans la bouche de David. C'est ce qu'il vit avec Saül qui ne lui laisse pas un moment de repos. Il est trahi par Doeg l'Édomite et Saül le cherche toujours. Vous savez, à un moment, il marche chacun sur le sommet d'une colline et ainsi de suite. David monte à Engedi, il est dans les rochers. Saül et 3000 hommes d'élite vont chercher David jusque dans les rochers des boucs sauvages. Le GIGN de l'époque était aussi après David. David se retrouve au fond de la caverne, vous connaissez l'histoire. Et puis, on peut imaginer dans quel état se trouve David à ce moment-là. il vient de vivre au chapitre 26 une grande délivrance. Et Saül a fait une sorte de mea culpa face, quand il est confronté à la bonté de David qui lui a épargné la vie. Et Saül se lance dans une grande tirade. Sois béni, mon fils David, certainement tu accompliras beaucoup de choses, tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Mais je pense que David, il ne fait plus vraiment confiance à Saül. En tout cas, c'est juste après cela que David se met à réfléchir avec les conséquences qu'on a lues au début de ce chapitre 27. Pourquoi d'un seul coup? Alors, est-ce que c'est vraiment d'un seul coup? En tout cas, plus précisément, pourquoi à ce moment-là, David ne voit son salut qu'en allant se réfugier chez Achish? Après avoir défait Goliath, après avoir vaincu l'armée des Philistins, en venir à la conclusion qu'il n'y a que chez les Philistins que Saül ne viendra pas le chercher. Est-ce qu'il doute de la puissance de Dieu à ce moment-là? Il dit rien sur l'Éternel. Dieu ne fait plus partie de son équation. Qu'est-ce qu'il fait de sa promesse pour devenir roi? Je pense qu'il est à bout de ses ressources humaines. Et tu as bien introduit ce matin ce que je voulais dire. C'est surprenant néanmoins de trouver chez un homme comme David, à certains moments, une foi extraordinaire, et puis, à d'autres moments, l'expression de ce sentiment d'impuissance, le doute, le désespoir, qui va le mener à des comportements complètement irresponsables, basés sur une fausse perception de la réalité. Alors, on ne va pas lire tous les psaumes, hein, je vous invite à le faire. Mais dans certains psaumes, David est absolument sûr de la toute-puissance de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Ah, c'est un peu ce qu'on dit le dimanche matin, hein. Par contre, j'ai pas entendu le psaume 13 ce matin. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Et pourtant, je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui sont plus dans le psaume 13 que dans le psaume 27. C'est la réalité. Et si David est passé par là, quelque part, ça me rassure. Je me dis, après tout, un homme choisi selon le cœur de Dieu, s'il passe par là. Alors, je varie mes psaumes en fonction de mon humeur. En fait, ce qui est formidable avec le psaume, avec les psaumes, c'est que souvent, David, il commence au fond du trou, hein, et puis à la fin du psaume, il arrive à exalter Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est les paroles qui vont faire écho aux paroles de Jésus sur la croix. Un homme selon le cœur de Dieu n'est donc pas un homme à l'abri des luttes internes. Il est aussi en proie au doute et à la dépression. David est un homme et pas un surhomme. Et même un homme plein de foi reste un homme. C'est Dieu qui a donné la victoire à David, et quand David ne voit plus Dieu dans le combat, il est perdu. Je pense que David est fatigué. Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Mois après mois, toujours poursuivi, pas un lieu de repos, toujours assailli. Certes, délivré, mais constamment persécuté par ses ennemis. Peut-être qu'après avoir vécu ce grand coup-là avec, dans le camp de Saül, avoir réussi à prendre son épée, après cette montée d'adrénaline extraordinaire, d'un seul coup, pof, il retombe. Hein. Élie nous a fait un peu le même coup. Hein. Après les prophètes de Baal, le lendemain, on le trouve complètement découragé. Étonnant que David ne cherche pas Dieu dans cette circonstance. Alors, sa décision, elle n'est pas juste, mais les conséquences de son choix, c'est dramatique. Il va se livrer aux mains de ses ennemis. Lui qui a vaincu Goliath décide d'aller chez les Philistins. Et en s'alliant aux Philistins, il risque d'être amené à combattre contre Israël. On a bien compris que David ne pouvait pas faire confiance à Saül. Mais qu'est-ce qui empêchait David de continuer à faire confiance à Dieu? Et c'est là qu'on arrive doucement à notre chapitre 27. Et je vois dans ce chapitre 27 et 28 et 29 la grâce prévenante de Dieu. Parce que David va être empêché de faire la guerre contre Israël. Ça fait un ou deux ans, nous dit Achish, que David sort avec l'armée des Philistins pour faire des razzias à droite à gauche, et il a toute confiance en David. Mais ce coup-ci, ils annoncent une grande campagne avec 5 princes philistins pour aller se battre contre Israël. Et Achish dit, David et moi, même combat. Les princes philistins disent, oh là là, c'est qui celui-là? Mais c'est David, tu le connais, David, celui qui disait, il a tué ses mille, Saül a tué ses mille, David ses 10 000. Et les philistins disent, non, lui il ne vient pas à la guerre avec nous, parce qu'il va se retourner contre nous. Achish est désolé, Achish est vraiment, il dit, David, je suis vraiment déçu que tu ne puisses pas venir avec nous, moi je te fais confiance, mais il ne t'aime pas. Je raccourcis un peu, mais c'est ça. Hein. Tu plais pas au prince, nous dit la semeur. Et je vois là la grâce prévenante de Dieu. Vous imaginez David se battant contre Israël, lui qui était appelé à devenir le roi d'Israël. On le verra plus tard, la grâce prévenante de Dieu ne s'arrêtera pas là. Alors on va lire, parce que... En fait, là, c'est juste le point de départ d'une spirale négative. David a fait le mauvais choix, mais Dieu va le laisser s'enfoncer. Et c'est les questions qui se posent quand on lit ce texte. Que fait Dieu? Alors, on va lire le chapitre 30. C'était mon introduction. Alors, ils sont partis, donc David est accompagné un peu Achish, et il est de retour à la maison, après donc le refus des princes philistins de faire campagne avec David à leur côté. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tziglag, donc l'endroit où ils habitent, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Négev, contre Tziglag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à être épuisé. les deux femmes de David, Ahinoam de Jizréel et Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Je ne sais pas pourquoi ils ne pensent pas à leurs femmes. C'est une remarque personnelle. Et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Et c'est là qu'on trouve ce petit verset que je vous ai lu. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. On a affaire à des guerriers, là. C'est sûr que des fois, on voit David avec sa harpe, c'est un peu difficile de mettre David dans une seule catégorie, mais c'est quand même un militaire. Et là, on a une bande de militaires qui arrivent devant leur ville incendiée. Et ils se mettent à pleurer jusqu'à être épuisés. Je ne sais pas ce qui peut arriver de pire, hein, à notre ami David et à ses compagnons. Et en plus, ses compagnons se disent, se menacent David de mort parce qu'il les a emmenés dans une galère qui est un peu trop difficile à supporter. Et c'est à ce moment-là qu'on lit ce verset. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant, en s'appuyant, nous dit la seconde, reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il y a un moment où David, à bout de toute ressource humaine, je crois que Dieu, évidemment, est derrière cela, ne peut que s'en remettre à Dieu. Mais c'est au moment de cette détresse extrême que finalement, il va trouver en Dieu de nouvelles forces. Alors moi, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudra que vous preniez le temps de vivre cette scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait un ou deux ans que tu es avec Achish, bon, je ne vous refais pas l'histoire. Tu rentres à la maison, tu vois, ça fume. Plus tu t'approches, tu vois qu'il n'y a plus de maison. Plus tu t'approches, il n'y a plus personne. On parle de te lapider. Qu'est-ce qu'il fait, David, là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup... Alors, le d'un seul coup, c'est moi qui le dis. Pour que finalement, il retrouve de nouvelles forces. Il reprend courage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça le remette en selle ? Ça le remette en marche ? Il va interroger l'Éternel, il va se mettre en route, il va poursuivre, il va attaquer. Quand je parlais de la grâce prévenante de Dieu, il est marqué au verset 19 que David ramena tout. Moi, ça m'intéresse de parler de quelque chose que je ne sais pas. Mais de cette capacité à rebondir. Quand il n'y a plus aucun espoir. Et les forces que David a retrouvées, donc vont lui permettre d'attaquer et ainsi de suite, mais de retrouver aussi la juste attitude, même par rapport à ses compagnons. Vous savez, à un moment, les gars, il y en a qui sont fatigués, il y a la moitié de la troupe qui reste en arrière, alors David continue à poursuivre avec l'autre moitié, il récupère tout, et au moins, au moment de partager le butin, ceux qui ont participé, à la bataille, il dit, non, on ne va pas donner à ceux qui sont restés à la maison. Hein. C'est bon, hein, ils n'avaient qu'à venir avec nous. Et là, David, il a ces paroles remarquables. Mes amis, n'agissez pas ainsi avec ce que l'Éternel nous a donné. Il nous a gardés et nous a donné la victoire. Voyez, les nouvelles forces que David a retrouvées, ce n'est pas des forces naturelles. David ne revient pas en disant « Ouais, on a gagné !» Mais il est clair que c'est l'Éternel qui nous a donné la victoire. Je pense que c'est un petit peu l'expérience du gars qui se noie. Et puis, au moment où tu penses que que c'est ton dernier souffle, quoi, que tu vas ouvrir la bouche un grand coup et que tes poumons vont se remplir d'eau... J'ai jamais vécu ça, mais j'ai fait un peu de surveillance de baignade. Rien à voir. Tu touches le fond, là, et avec un bon coup de pied, whoop, et tu arrives à ça. Tu reprends l'air qui te redonne la vie. Je crois qu'il s'est passé quelque chose comme ça dans David, avec David, pour lui permettre de revenir, de reconnecter avec ce qu'il sait de Dieu. Est-ce que nous savons comment rebondir? Est-ce que nous savons comment reprendre courage? Est-ce que nous savons comment puiser de nouvelles forces en nous appuyant sur l'Éternel, son Dieu? Il nous faut apprendre à nous arrêter. Je crois que les circonstances, et je pense que c'est ce qui est arrivé à David, il est arrivé, et là il y a un moment où tu es obligé de dire, de faire le constat qu'il n'y a plus que des ruines, que tout est brûlé, que tout est perdu. Et je pense que Dieu a permis ça. Et donc David s'arrête. Ensuite David se met à réfléchir, certainement, mais pas comme au chapitre 27. Peut-être qu'il pense au psaume 42. « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu au-dedans de moi ? Mets ton espoir en Dieu. » Je pense que David, il est parti tout seul dans son coin. Ça, c'est, vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais je crois qu'il y a ces moments-là où seul, un temps de solitude, justement, avec Dieu, permet de réfléchir. Et je vous invite vraiment à ces temps où vous êtes seul avec Dieu. Jésus lui-même a pris le temps d'être seul avec son Père pendant un ministère très court. Jésus a enseigné à ses disciples à se mettre à l'écart pour passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, si j'avais le temps, je vous parlerais de la méditation. Pas la méditation transcendantale, pas la méditation qui cherche à faire le vide dans notre esprit. À aucun moment la méditation biblique se rapproche de cela. La méditation biblique, c'est au contraire serrer la parole dans son cœur. Ruminer cette parole. C'est ce que je fais avec ce verset depuis un bon moment. Parce que il y a une substance dans ce verset que je veux découvrir. Et je m'attends à ce que Dieu me révèle. Qu'est-ce qui, dans ma vie, me permet de retrouver des forces nouvelles. Vous savez, la méditation biblique nous pousse à l'action, nous pousse à l'obéissance. Je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La méditation biblique n'est pas une fin en soi, mais elle est l'occasion d'entendre la voix de Dieu et de nous mettre en marche avec un changement de comportement. Je finis avec peut-être ce qui peut nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qui, dans 1 Samuel 27, fait que David
est incapable d'entendre la voix de Dieu, de s'appuyer sur les promesses de son Dieu. Je passe très vite sur le péché. Alors quand je dis très vite, c'est parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est évident que c'est une des causes du silence, soi-disant, de Dieu. Je pense qu'il peut y avoir l'ignorance. Le petit Samuel, quand l'Éternel lui l'appelle, il pense que c'est le vieux Élie. Et finalement, je pense qu'il y a peut-être des fois, il faut qu'on apprenne à entendre la voix de Dieu. Ça vous arrive ? A posteriori, de vous rendre compte que vous avez agi contrairement à ce que vous aviez. Alors, je ne sais pas, attention aux mots qu'on va mettre là. Mais quelque part, mais oui, Dieu m'avait prévenu, je n'ai pas entendu sa voix. Cultivons l'habitude d'écouter la voix de Dieu. Le découragement est un obstacle à entendre la voix de Dieu. Le peuple d'Israël, au moment où Moïse va leur annoncer la possibilité de sortir d'Égypte, nous disent qu'ils n'écoutèrent pas parce qu'ils étaient découragés. La peur, c'est sûr que la peur, c'est le contraire de la foi, et ça ne nous met pas dans une bonne attitude. Mais j'ai trouvé, et dans ce passage, c'est marqué, vous savez, il est rapporté des compagnons de David que l'attitude qu'ils avaient quand ils ont vu Ziklag détruit, c'est qu'ils étaient pleins d'amertume. Et c'est peut-être une des clés de la réponse, une des clés pour ce « mais », c'est que David ne semble pas être tombé dans l'amertume à ce moment-là de sa vie. Alors, c'est donc une différence entre ses compagnons et David. L'amertume, c'est quelque chose qui nous empêche, qui nous détourne de la grâce de Dieu, nous dit Hébreux 12, 5. Très intéressant ce verset, je vous laisse chercher parce que je n'ai pas le temps de développer. Mais veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite ce verset, il pense à Deutéronome 29, 18. Et là, le rapprochement est très intéressant parce que se passer de la grâce de Dieu, c'est l'équivalent dans l'Ancien Testament d'être idolâtre. C'est détourner, adorer d'autres dieux. Vous ferez le lien avec Deutéronome 29, 18. Et puis Jérémie 16, 19. Et je me dis que peut-être que le problème de David dans 1 Samuel 27, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui a pris la place de Dieu dans son cœur. Et ce quelque chose d'autre, il s'appelle Achish. Et il y a un moment où il va falloir que Dieu reprenne la place dans le cœur de David. Il ne s'agit pas simplement de se séparer d'Achish, mais de le remplacer. Parce qu'il n'aurait jamais dû disparaître. La joie, le plaisir qu'il y a à connaître Dieu et à le servir. Et je pense que c'est quelque chose qui nous arrive aussi, des moments où on considère le plan B comme étant l'unique solution qui est offerte à nous. Ce n'est pas toujours du péché, ce plan B, mais c'est quelque chose qui va prendre la place de Dieu dans notre cœur. Alors, et je boucle là-dessus en me disant que peut-être la raison pour laquelle Dieu a choisi un David, malgré tout ce qu'on a dit de mal de lui ce matin, c'est que un homme selon le cœur de Dieu, c'est justement quelqu'un qui a cette capacité à replacer Dieu au centre de son cœur, de son affection, et de trouver en Dieu la joie, le plaisir, la satisfaction qui lui permettent de se relever et de continuer avec lui. Père, je te remets ces pensées et je te demande que tu travailles dans nos cœurs et que tu nous donnes cette capacité, comme un David, de renouveler nos forces en apprenant ou réapprenant à nous confier en toi. Amen.